Merci beaucoup à vous tous aussi d'être là pour ces cafés scientifiques dédiés à l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on sait le modèle économique linéaire qu'on est encore en train d'utiliser pour la production des masses consistant à prendre, fabriquer, éliminer, épuise les ressources naturelles de la planète. Donc, apparemment, un passage à l'économie circulaire semble être quand même inévitable. Donc, le problème, c'est comment le faire. Et qu'est-ce que c'est cette économie circulaire? Comment transformer notre système linéaire dans un système circulaire? Donc, pour discuter de ces sujets, j'ai invité quatre personnes que vous voyez ici. Désolée, je n'ai pas trouvé d'autres femmes, donc c'est moi seulement ce soir qui les représente. Et vous, clairement, on a la salle, je vois qu'on est là quand même. Donc, je vous présente brièvement nos intervenants. Et après, je les laisse aussi dire quelques mots sur leur parcours aussi. Donc, on a Adrien Holzer, qui est professeur ici à l'Institut des systèmes d'information à l'Université de Neuchâtel. Après, vous voyez ici Jérôme Grand-Girard, il travaille dans l'entreprise Recommerce. Il est responsable, vous êtes responsable du développement, non? Exactement. Après, on a Laurent Médère, qui a un parcours très différencié, lui aussi. Il travaille pour l'instant comme coach, disons, des startups dans l'économie circulaire. Il est aussi dans l'Impact Hub et on le laissera vous dire qu'est-ce que c'est à Lausanne. Après, on a Nils Mossou. J'espère avoir bien dit votre nom. Lui, il travaille chez la Fondation Sano Durabilitas. Alors, peut-être on commence chez vous, Nils. Si vous vous dites peut-être un petit mot sur Sano Durabilitas et aussi sur Circular Economy Switzerland. Et peut-être aussi sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené aussi à vous engager dans l'économie circulaire?
Volontiers. Tout fonctionne, parfait. Donc oui, je suis collaborateur scientifique à Sano Durabilitas. C'est une fondation qui est basée à Bienne, qui promeut le développement durable en Suisse depuis plusieurs années et qui a un de ses thèmes majeurs, l'économie circulaire, l'économie durable. Il y a différents labels aussi qu'on peut donner à tout ça. Je suis aussi chargé d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne en économie politique internationale. Et puis pour mon parcours, donc c'est principalement jusqu'à peu académique avec une thèse à l'Université de Lausanne sur le rôle des entreprises dans les négociations sur le changement climatique. Voilà pour un peu le parcours. Et là, j'ai changé pour une position disons, plus active, plus d'intervention disons, dans la société plus directement qu'au travers de mes activités académiques précédentes. Et donc, peut-être un mot sur Circular Economy Switzerland,
pour vous
présenter. Il y a en ce moment différentes initiatives en Suisse qui existent sur l'économie circulaire. Il y a, je pense, une vraie dynamique qui est en train d'être créée au niveau suisse. Notamment un mouvement national qui est un mouvement ouvert, c'est pas un club fermé, donc s'il y a des gens intéressés à rejoindre, c'est bienvenu, de plusieurs organisations au niveau suisse, donc qui sont actives sur différents thèmes de l'économie circulaire. Nous, notamment avec Laurent de Impact Hub, on s'occupe d'une initiative qui s'appelle Circular Economy Transition, donc la transition vers l'économie circulaire, qui a différentes portes d'entrée, donc notamment un start-up, un incubateur de start-up, Laurent va vous en dire plus, je pense, un business lab, donc ça c'est pour les entreprises qui existent déjà, qui fonctionnent avec des modèles plutôt linéaires et qu'on essaye d'amener à envisager des modèles d'affaires circulaires. On a aussi des événements tout public, donc là c'est plutôt de l'information, disons, pour les citoyens. Et puis à Sano Durabilitas, on s'occupe aussi particulièrement des recommandations politiques, donc tout ce qui est des conditions cadres et puis liens avec la recherche. Juste pour vous donner peut-être un exemple de projet de recherche sur lesquels on est impliqué, il y a en ce moment un programme national de recherche qui s'appelle le PNR 73 sur l'économie durable. Et au sein de ce programme de recherche, il y a une équipe qui est avec les universités de Saint-Gall, Lausanne et l'EMPA à Dubendorf, qui travaille avec des entreprises comme Nespresso, Losinger Marazzi, Logitech, Dr. Gaps, donc de tout secteur et de toute taille. À essayer justement concrètement, au-delà même de juste simplement l'idée d'économie circulaire qui est belle, mais disons de voir concrètement comment on opère cette transition vers l'économie circulaire, quelles sont éventuellement les barrières à cette transition, là où ça coince, disons, et puis une fois qu'on a identifié ça, comment est-ce qu'on peut dépasser ces barrières, éventuellement aussi en lien avec les conditions cadres, donc plutôt le côté administration publique et politique. Voilà.
Merci Nils. Laurent, vous voulez dire quelque chose ?
Alors, ben, volontiers. Moi, mon parcours, il est un peu différent. Moi, je viens de l'industrie. Je travaille dans différentes industries, mais notamment pendant plus de 20 ans dans l'industrie textile, un peu partout dans le monde. Et après de nombreuses années travaillées dans ce qu'on appelle le développement durable, je me suis dit que ça ne suffisait pas. Le développement durable, spécialement dans le textile, se réduit à limiter un peu les impacts négatifs. Or, dans la même période, en 15 ans, on a doublé la production textile. Donc, limiter un peu des impacts négatifs ne suffit pas. J'ai été mandaté en 2010 dans le cadre d'une mission dans le textile pour faire une évaluation de l'économie circulaire dans le milieu du textile. Et même si c'est extrêmement complexe, ça m'a paru une meilleure réponse au défi qui nous attend, même si ce n'est pas parfait. C'est quelque chose qui m'a paru extrêmement intéressant. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse et je travaille sur des projets en économie circulaire qui vont changer la conception. On s'efforce de travailler avec l'industrie et vraiment de changer la conception. J'ai rejoint le Impact Hub il y a cinq mois pour monter un laboratoire avec Sanu Diabilitas. Plus globalement, s'occuper de la transition vers une économie circulaire. Et ce qui me paraissait intéressant dans le montage de cette transition, de ce projet, de ce lab, c'est qu'on a l'opportunité de travailler sur toutes les parties prenantes. Finalement, on travaille, on va parler au grand public, on va essayer de changer le consommateur, mais on a des recommandations politiques, on va s'intéresser et travailler beaucoup avec les industries. Moi-même, j'enseigne aussi l'économie circulaire depuis 2013 à Gland, dans une école internationale de management durable. Et avec toutes ces initiatives, j'ai l'impression qu'on va arriver à parler aussi bien en politique qu'au milieu économique, et qu'en parlant d'économie circulaire, on sort un petit peu justement de ce développement durable qui a été pris par un ou deux parties, puis qu'on va essayer d'avoir quelque chose de plus transversal. On sait qu'aujourd'hui, les problèmes climatiques, les problèmes de déchets, les problèmes toxicologiques sont des problèmes qui touchent tout le monde, et on ne peut plus laisser juste une étiquette de l'économie durable ou le développement durable sur un ou deux parties, et puis avoir une espèce de guerre. On doit absolument aligner tout le monde sur les problématiques qu'on a, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Impact Hub et cette initiative transition vers une économie circulaire, en essayant justement d'agir sur tous les secteurs.
Merci Laurent. Jérôme, alors vous êtes directement impliqué dans une entreprise qui a traduit déjà dans quelque chose d'effectif l'économie, c'est-à-dire vous êtes déjà dans l'économie circulaire.
Exactement, donc moi je suis le directeur de Recommerce en Suisse. Donc qu'est-ce que fait Recommerce ? Effectivement, on est actif dans l'économie circulaire. Notre objectif finalement, c'était de démocratiser la reconsommation. Et on a commencé, et aujourd'hui on est toujours actif dans ce milieu-là, dans les smartphones. Et on a constaté effectivement que les gens changeaient régulièrement leur smartphone, bien que finalement ceux-ci n'étaient pas obsolètes, n'étaient pas cassés, ne fonctionnaient pas forcément plus, mais ils avaient simplement envie de changer et d'acheter un nouveau smartphone. Donc voilà, le Recommerce, pour en dire, on en parlera peut-être un petit peu plus plus tard. Moi, auparavant, j'ai travaillé effectivement chez Swisscom aussi, et donc j'étais au cœur de ce business-là, et je voyais bien qu'effectivement, environ tous les 18-24 mois, les gens étaient encouragés à changer leur téléphone. Et en 2014, l'entreprise Recommerce, du coup, qui a été fondée en France, en 2009, il y a déjà 10 ans, m'a contacté pour développer et créer une société en Suisse. Et voilà, depuis 2014, nous sommes actifs en Suisse dans ce milieu-là.
Merci beaucoup. Adrien, si tu veux aussi dire un mot.
Donc moi, je suis Adrien Holzer, je suis ici professeur de système d'information à l'Université de Neuchâtel. Et puis moi, je m'intéresse particulièrement en fait, à la transformation numérique ou à la transformation digitale, si vous pardonnez l'anglicisme. Et puis, je m'intéresse au fait de savoir comment est-ce qu'à travers la technologie, on peut changer le comportement des gens sur un comportement qui est plus désirable ou qui désire eux plus suivre. Et puis, plus particulièrement, moi, je m'intéresse au domaine de l'éducation, de l'humanitaire et puis aussi des organisations pour savoir comment est-ce qu'on arrive à encourager le partage de connaissances. Ça, c'est une des choses qui m'intéresse assez principalement, qui s'applique assez bien en fait, au domaine de l'éducation, clairement, partage de connaissances là, organisation et puis dans l'humanitaire aussi. Humanitaire qui est un domaine intéressant parce qu'à la fois, on a de l'infrastructure qui est plus... on va dire moindre, donc vous n'avez pas vraiment accès à la réseautique ou l'infrastructure de haute qualité. Et puis de l'autre côté, vous avez des pressions de protection de la vie privée très importantes. Puis peut-être on en rediscutera sur cette problématique avec la numérisation. On arrive peut-être à utiliser ça comme outil pour améliorer certains processus dans l'économie circulaire, mais ça pose des questions de protection de la vie privée et autres qu'il faut essayer d'adresser.
Merci Adrien. Peut-être on commence tout de suite avec toi et comme tu as introduit cette thématique de la digitalisation, de la transformation numérique dans les entreprises, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment donc mettre en lien cette transformation numérique et l'économie circulaire? Donc comment on peut voir là une possibilité d'aller quand même vers l'économie circulaire, même dans la transformation numérique? Voilà.
Ouais. Alors, il y a plusieurs manières dont les nouvelles technologies, on va dire technologies qui existent depuis peut-être une dizaine d'années, principalement les téléphones mobiles, avec la localisation des gens qui permettent, par exemple, je dirais trois exemples. Exemple simple, c'est le partage de ressources. Donc, partage de ressources... On peut imaginer se prêter, j'ai moi-même à la maison des outils que je n'utilise pas, le fait d'avoir un téléphone mobile qui me permet de trouver une personne à qui prêter un ustensile, ça peut être une manière d'utiliser la technologie pour mettre en contact en fait, un producteur et puis un utilisateur ou deux utilisateurs. Alors, on voit aussi ça dans le covoiturage avec par exemple BlaBlaCar, où on essaye de faire en sorte de partager des ressources en utilisant la technologie pour mettre en commun deux personnes qui veulent aller au même endroit au même moment. On peut aussi imaginer ça avec Mobility, c'est aussi un autre exemple de partage un peu différemment, où on n'a pas une ressource qui est privée, mais une ressource qui est dans une entreprise, mais qui permet quand même, à travers non seulement des applications mobiles, mais aussi des liens avec la technologie qui est embarquée, pour retrouver, suivant comment, où se trouvent les véhicules et ce genre de choses. Donc d'un côté, on a ce partage de ressources qui est possible grâce à la technologie mobile, la géolocalisation et ce genre de choses. De l'autre côté, on a l'optimisation de certaines ressources. Un exemple... Il y a cette application qui s'appelle Tado, qui est une application qui, en fait, vous avez une application mobile, vous avez quelque chose que vous mettez sur votre chauffage à la maison. En fait, c'est une sorte de thermostat qui, en fait, se base sur votre localisation pour savoir, vous n'êtes pas à la maison, donc on peut réduire le chauffage. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'économiser de la ressource sans que ça pose vraiment... ça réduise votre confort. Donc en fait, il y a une sorte de manière d'utiliser ce qu'on appelle un peu cet Internet des objets, où il y a des objets qui sont connectés. Ici, par exemple, ce chauffage qui est connecté à Internet, qui est connecté à votre téléphone. Le système sait où vous êtes. Donc ça peut poser évidemment des problèmes suivant si cette localisation est partagée avec des personnes inadéquates, mais qui vous permettent en fait d'optimiser cette partie-là. Il y a aussi d'autres entreprises, si on prend peut-être des entreprises qui, Hilti par exemple, qui ont des machines de chantier ou des perceuses, qui ont changé leur modèle d'affaires, qui à la base, en fait, vous vendez des perceuses. Après, ils se sont dit, ah, ben, tiens, en fait, on pourrait vendre le service, plutôt louer des perceuses aux personnes. Et puis, en fait, qui commencent à connecter ces perceuses pour eux-mêmes pouvoir savoir, ah, ben, tiens, cette perceuse-là est à changer, ah, il y a un problème. Et puis, en fait, on a ces perceuses, finalement, qui peuvent être après connectées à Internet, au système, pour essayer un peu d'optimiser ce service. Puis peut-être la dernière partie, qui est une partie qui est peut-être la virtualisation des ressources, qui peut être en fait avec l'informatique. Si on sait, moi je travaillais à l'EPFL avant, à l'EPFL, la dépense énergétique, c'est un tiers pour tout ce qui se passe à l'intérieur de l'EPFL, un tiers pour tous les déplacements journaliers des personnes qui viennent au travail, et puis un tiers c'est en fait, les voyages pour aller en conférence. Donc, quelque chose qui est vraiment assez extrême. Et puis, on peut imaginer qu'avec l'avancée de technologies qui permettent plus facilement, on peut imaginer avoir des personnes virtuelles qui viennent en hologramme faire des conférences, comme à l'époque la présidentielle française, à voir si ça va s'améliorer. Mais ça, c'est quelque chose qui peut réduire la consommation de ressources à travers ces nouvelles technologies.
Merci Adrien. Donc on voit qu'il y a des possibilités, mais de toute façon, il faut qu'on s'habitue. Qu'on s'habitue à consommer différemment, à modifier notre façon de faire, de consommer. Je demande peut-être à Jérôme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... vous avez maintenant avec votre entreprise une expérience de 10 ans, disons. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment ça marche, quelle réactivité vous avez vue dans le marché? Qui est, par exemple, qui pour l'instant achète vos téléphones et renonce aux nouveaux? Est-ce que peut-être on peut déjà dire que le marché des nouveaux smartphones, c'est mature, c'est mûr, c'est, voilà, on est au bout et on passe au recycling. Peut-être avec quelques chiffres, on se rend un peu compte si on est vraiment en train de changer ou si c'est vraiment seulement le début.
Effectivement, donc déjà pour expliquer un tout petit peu plus en détail ce qu'on fait, on peut dire qu'on a déjà trois métiers différents au sein de notre entreprise. Le premier des métiers, ce sera de s'approvisionner en ressources, c'est-à-dire qu'on doit racheter du coup des téléphones portables pour avoir de la matière première. Le deuxième travail, ce sera de tester ces téléphones, de les réparer si besoin dans des ateliers. Et le troisième, ce sera de les mettre à la vente, à la disposition pour des clients. Et comment on fait ça? Donc la manière de racheter les téléphones, donc là, on a développé aussi des solutions informatiques et on travaille avec des partenaires où on a mis à disposition nos solutions informatiques, notamment on travaille avec Swisscom pour ne pas les citer. C'est un de nos partenaires principaux pour le rachat des téléphones, puisque la plupart des gens, quand ils achètent un nouveau téléphone, se rendent chez leur opérateur, que ce soit Swisscom, Sunrise ou Salt. Et l'idée, c'est que justement, les gens qui vont acheter un nouveau téléphone, quand ils aillent dans une boutique d'un opérateur, puissent directement faire évaluer leur téléphone, donc au travers de nos solutions, en répondant à quelques petites questions, et on va leur proposer un prix pour leur téléphone. Si le client est d'accord, bien sûr, il va recevoir l'argent directement dans la boutique. Donc ça permet de redonner du pouvoir d'achat aux clients directement sur place. Donc on revalorise finalement une ressource qui était destinée à finir peut-être à la poubelle. Donc ça redonne du pouvoir aux clients, ça permet aussi finalement à l'opérateur de redonner du pouvoir d'achat à leurs clients et ainsi pour eux, in fine, stimuler des nouvelles ventes. Le travail de reconditionnement, de traitement se fait aussi, ça fait partie de notre ADN aussi. On travaille en partenariat avec une entreprise de réinsertion professionnelle, professionnelle qui se situe à Genève, où là on a des personnes en stage qui passent dans nos ateliers pendant 6 mois, une année, sur lesquels on va les former et qui doivent du coup tester, d'après notre cahier des charges, les téléphones qui arrivent dans cet atelier. Et puis après, on va revendre aujourd'hui principalement nos téléphones sur Internet. Pour donner peut-être quelques chiffres, Donc aujourd'hui, on rachète environ 40 000 téléphones par année en Suisse. Hein. On en vend environ 30% sur le marché suisse, le reste part ensuite en Europe ou sur d'autres marchés, en Afrique ou en Asie. Au niveau du groupe, aujourd'hui, on est plutôt vers 400 000 téléphones qu'on rachète. Donc, c'est un marché, c'est un gros et énorme marché, puisqu'il y a environ 1,5 milliard de téléphones qui se vendent chaque année. Et rien qu'en Suisse, on a environ 2,5 à 3 millions de téléphones qui se vendent chaque année, de téléphones neufs. On a, pour donner un petit ordre d'idée, on réfléchit en taux de rachat, c'est-à-dire combien de téléphones on va racheter par rapport au nombre de téléphones neufs qui sont vendus sur le marché suisse, par exemple. Et là, on est encore au début de ce mouvement-là. On est sur des taux de 3-4%. Donc, c'est encore très faible, hein, puisqu'on a en France plutôt des taux de 25 à 30%. En Allemagne aussi, un petit peu plus élevé. Et ça vient effectivement de la structure aussi du marché des télécommunications en Suisse, qui était un petit peu différent des marchés voisins, où en Suisse, on avait encore un modèle où vous achetiez un téléphone moins cher quand vous aviez un contrat. On est tous habitués à ce modèle de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les gens payent, si vous achetez un nouveau téléphone, le prix plein de votre téléphone. Et du coup, ça fait que les opérateurs vont mettre de plus en plus en avant ces modèles de rachat des anciens téléphones pour essayer de diminuer la valeur des nouveaux téléphones. Et les nouveaux téléphones valent de plus en plus cher aussi. C'est un constat qu'on fait sur le marché. Hein. Aujourd'hui, un téléphone vaut en moyenne 1000 francs. Les nouveaux téléphones qui sortent, alors qu'avant on était plutôt sur 400-500 francs, maintenant ça vaut 1000 francs. Et c'est un marché mature, effectivement, c'est un marché, en tout cas en Europe, qui ne croît plus. L'année passée, au niveau mondial même, c'était la première année où les ventes de téléphones neufs ont décru par rapport à l'année précédente. Et ceci s'explique aussi du fait qu'il n'y a plus véritablement d'évolution, de révolution technologique dans les téléphones. Il y a des petites évolutions chaque année qui sont amenées par les constructeurs, mais qui ne sont plus des évolutions qui sont vraiment utiles au quotidien de tout un chacun. Et puis, deuxièmement, il y a aussi une prise de conscience finalement des gens, puisqu'avant, les personnes changeaient, disons, tous les 18-24 mois, ce que je vous disais au début. Aujourd'hui, on va plutôt vers un allongement. Finalement, les gens gardent ou conservent leur téléphone un petit peu plus longtemps qu'auparavant. Donc, effectivement, et par contre, on constate depuis maintenant environ une année, effectivement, une émergence, une prise de conscience aussi des gens, des consommateurs, mais aussi des entreprises pour valoriser ce système.
Est-ce qu'on a déjà des cas où au rachat, on va racheter des téléphones qui ont été déjà recyclés ?
Oui, effectivement, on a des téléphones qui ont déjà eu deux vies, par exemple, qu'on va racheter, des gens qui ont acheté chez nous, par exemple, ou ailleurs, et ensuite qui nous les revendent, effectivement. Ouais. Donc, et pour répondre aussi à la question, qui achète finalement, et c'est difficile d'avoir une véritable typologie de clients, puisque ça touche à peu près tout le monde, mais il y a deux critères importants qui sont le prix, puisque les téléphones reconditionnés sont moins chers, forcément, que les téléphones neufs, et puis l'aspect écologique. Donc il y a deux genres de clientèle, je dirais, ceux qui ont vraiment plutôt un objectif d'optimisation des coûts. Je cherche quelque chose qui ne me coûte pas trop cher. Et il y a aussi les gens qui vraiment ont une démarche beaucoup plus écologique et de se dire, moi, je consomme véritablement différemment et j'achète du seconde main, que ce soit le téléphone, mais d'autres produits. Et il y en a qui ont aussi les deux critères qui prennent en compte, effectivement.
Ouais. Merci, Jérôme. Donc, on voit qu'il faut quand même, de la part des consommateurs, il faut se mettre dans l'esprit du recycling et vraiment de penser qu'effectivement, Est-ce qu'on veut continuer à faire des kilos de déchets ou peut-être on change notre habitude? Mais peut-être qu'il y a aussi, pas seulement les individus, pas seulement les entreprises, qui peut-être deviennent un peu plus responsables, mais peut-être aussi la politique. Donc, Nice, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites, peut-être quelques, si vous pouvez nous donner quelques exemples de vos actions, de votre stratégie pour faire ainsi qu'effectivement, on arrive à avoir un changement au niveau de la société, de la politique, et voilà, pour aller dans cette direction.
Oui, peut-être juste pour donner aussi quelques éléments de cadrage sur l'économie circulaire. Je crois que c'est important de voir en fait ça comme quelque chose qui comporte beaucoup d'activités très différentes. Donc on a le recyclage, évidemment, qui est un mode qu'on connaît quand même en Suisse depuis assez longtemps et qui en Suisse est relativement bien organisé par rapport à d'autres pays. On a des assez bons taux de recyclage. On a toutes sortes d'autres activités qui peuvent aider en fait à le but de l'économie circulaire, c'est à préserver la valeur des produits, des ressources naturelles, des composants, etc., le plus longtemps possible dans le système économique. Donc la première, peut-être la première chose, la première activité qu'on peut considérer, c'est l'activité de ne pas acheter, de ne pas consommer. Donc c'est ce qu'on appelle refuse, renounce en anglais, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire, donc on s'abstient, disons, de consommer, de racheter, de changer, etc. Toute cette problématique de l'obsolescence, de la vitesse avec laquelle on rachète des nouveaux, de la mode, etc. Il y a d'autres éléments qui sont dans l'optique, on appelle ça de ralentir les boucles de matière, donc les flux de matière, si vous voulez. Et pour ralentir, on va chercher à prolonger, par exemple, la durée de vie des produits, typiquement à leur donner des nouvelles vies consécutives, à les réparer, à partager, donc à intensifier l'usage des produits, à faire que c'est plus seulement ma voiture, mais quand je ne l'utilise pas, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'utiliser. Donc, en fait, la voiture sera plus utilisée en moyenne, etc. Donc, toutes ces activités de réparation, de partage, de revente de produits déjà utilisés, en fait, vont ralentir en fait l'arrivée du produit, du composant ou de la ressource au son stade final, en fait, soit dans un incinérateur en Suisse, à l'étranger, c'est notamment aussi en décharge, ce qui est encore plus problématique. Donc on va vraiment chercher à avoir cette logique de préserver le plus longtemps possible la valeur de ces produits, matériaux, composants, etc. dans l'économie. Que ce soit une valeur qu'on la considère économiquement, donc la valeur résiduelle, un téléphone portable, après sa première utilisation, conserve de la valeur, puisqu'il peut être revendu par ailleurs une deuxième fois, voire une troisième, etc. Qu'on considère la valeur intrinsèque d'une ressource naturelle, c'est-à-dire que un métal, ça a une valeur, etc. Donc on peut le voir sous différents angles. Alors ensuite, il y a évidemment toute une série d'actions qui peuvent rendre ça plus ou moins possible. On parle d'une transition vers l'économie circulaire qui est une transition, c'est massif en fait quand on y pense, c'est vraiment extrêmement important. On a peu d'exemples par le passé de telles transitions socio-économiques avec tant d'implications. Donc là, on est sans doute tout au début, mais il y a un certain nombre de conditions cadres, notamment que les institutions politiques et administratives peuvent mettre en œuvre pour favoriser cette transition. On parle par exemple souvent de la fiscalité, donc quelles sont en fait les activités qu'on va plus ou moins chercher à encourager. Par exemple, les activités de réparation, qui sont des activités qui sont des activités assez traditionnelles en fait quand on y pense dans nos sociétés, mais qui ont baissé en intensité. Enfin, on répare moins les choses, on répare de moins en moins les choses. Si un pouvoir public veut encourager ces activités, il peut, ce qu'il fait déjà, créer des plateformes où on peut trouver des réparateurs, il peut faire toutes sortes d'aides indirectes, mais il peut aussi dire que la TVA sur ces activités-là est réduite à zéro. C'est pour vous donner un exemple. Donc il y a toute une série, si vous voulez, d'actions qui sont possibles. Il y a aussi tout un pan juridique en fait qui est assez intéressant qu'on explore aussi dans certains projets de recherche sur la définition de ce que c'est qu'un objet. En fait, la réutilisation des objets, si vous pensez par exemple à des objets qui ont un en contact avec, avec le corps ou bien qui ont un lien avec la santé, etc., il y a des normes qui font que finalement c'est très difficile de maintenir ces objets en circulation. Donc quelle est la définition juridique d'un objet ? Qu'est-ce qui fait qu'après sa première vie, on peut ou non le réutiliser, le réintroduire dans le système économique, le revendre, etc. C'est tout des aspects qui sont actuellement en train d'être explorés au niveau suisse. Dans les bâtiments, on parle beaucoup de recyclage des matériaux, de réutilisation des matériaux, donc de démontage, réutilisation, etc. Mais il y a évidemment des questions de qualité, de normes de qualité qui se posent. C'est-à-dire que si vous réutilisez des matériaux qui ont déjà servi dans un bâtiment, eh bien là, vous devez pouvoir garantir. Donc il y a un problème de normes, de standards, de qualité, qui sont toutes des choses qu'il faut actuellement mettre en place, qui n'existent pas pour la plupart. Il n'y a pas le label économie circulaire qualité qu'on peut comme ça poser si facilement, tellement il y a de secteurs différents, tellement il y a de produits, de problématiques différentes. Donc voilà, nous, à Sano Durabilita, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire cette interface entre les résultats de la recherche scientifique et puis les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a souvent des petits problèmes de traduction, donc c'est la question du transfert de connaissances en fait, entre ces gros programmes de recherche pour éviter qu'à la fin, ça donne un rapport qui soit juste dans un tiroir. Ah tiens, ça ne marchait pas. Bon. Non. Qui soit juste mis dans un tiroir, etc. Donc vraiment utiliser les résultats de la recherche, les rendre compréhensible, utile pour les personnes de la pratique, donc les entreprises, etc., et puis favoriser ce cadre institutionnel et de régulation pour cette transition. Juste un dernier mot, ce qu'on développe aujourd'hui comme projet, c'est aussi prendre en compte toutes ces problématiques du point de vue du consommateur et puis du point de vue du travailleur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de cette notion de transition juste dans le cadre du changement climatique, donc dans le cadre de la décarbonisation de l'économie. Il y a toute une problématique qui se pose sur que deviennent les travailleurs, comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on maintient des emplois de qualité, bien payés, comment est-ce qu'on prévoit des reconversions professionnelles, etc. Eh bien, c'est un petit peu la même problématique dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, prendre en compte ces problématiques, pour nous, c'est aussi un moyen de favoriser la transition vers une économie circulaire. Et de la même manière, du point de vue du client, il y a beaucoup de modèles d'affaires circulaires qui changent complètement le lien entre le vendeur et l'acheteur. Et puis, ça pose des problèmes de respect de la vie privée, ça pose des problèmes de contrôle. Du point de vue de l'entreprise et du point de vue environnemental, c'est des modèles d'affaires tout à fait intéressants, mais il faut s'assurer qu'ils respectent un minimum de standards en termes de droits des consommateurs. Donc, c'est sur ces plans-là qu'on essaye d'agir.
D'accord, merci beaucoup. Laurent, donc, on a vu qu'effectivement, il y a tout un nouveau monde qui peut naître et qui est en train de naître, donc des nouveaux acteurs. Notamment vous êtes un peu le coach des nouveaux startups dans ce milieu de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, moi je voudrais juste aussi parler un peu d'éco-conception, parce que là, aujourd'hui on a parlé beaucoup d'économie circulaire, d'augmentation, de réutilisation et autres. Oui. Mais in fine, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de produits sont mal conçus. Ils sont pas conçus pour être réutilisés, recyclés, réparés. Donc on doit revoir la conception. Encore une fois, je viens du textile, donc moi ce qui m'intéresse quand on parle de ressources, la première ressource que j'ai cherché à protéger quand je me suis intéressé à l'économie circulaire dans le textile, c'est l'eau. Parce qu'aujourd'hui, dans le textile, on a des teintures qui sont toxiques, on a une mauvaise réutilisation de l'eau, donc on est en train de détruire complètement les écosystèmes dans les pays en voie de développement et dans les pays qui produisent nos textiles à bas coût. Donc, protection des ressources, c'est aussi protéger l'eau. Si je prends la téléphonie, on sait que tous les matériaux qui sont l'extraction des matériaux est extrêmement lourd en chimie pour extraire de la bauxite, pour faire de l'aluminium ou du cobalt, toutes ces choses-là. Il faut des quantités énormes d'eau et de produits toxiques qu'on va rentrer dans les sols. Donc finalement, quand on parle d'économie circulaire, on doit aussi penser conception et penser au-delà de nos frontières et réfléchir à l'impact qu'ont l'extraction des ressources qu'on utilise dans les pays producteurs. Et c'est une des raisons pour laquelle Je me suis intéressé à l'économie circulaire, c'est parce que oui, il faut continuer, il faut mieux utiliser les ressources, oui, il faut prolonger la vie des produits, oui, parce que à la base, quand on extrait toutes ces matières, on a des impacts sur l'eau, sur les sols et sur l'air qui sont catastrophiques. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle il faut prolonger la vie des objets. Mais ça ne suffit pas. Il faut travailler avec l'industrie pour les convaincre de changer la conception. Aujourd'hui, si le recyclage est problématique et pas optimum, est trop cher, c'est parce que les produits ne sont pas prévus pour être recyclés. Donc si on passe 2 heures à démonter un produit, les ressources vierges, les matériaux vierges sont toujours meilleur marché que le recyclage. Si on ne change pas les substances qu'on utilise dans les chaînes de production, eh bien on n'arrivera pas à bien réutiliser, parce qu'on a des intrants dans les plastiques, dans le textile, dans les métaux, qui sont problématiques. Et le recyclage va être de mauvaise qualité. On parle souvent de sous-recyclage parce qu'on a un problème de conception. Les produits ne sont pas conçus aujourd'hui pour rentrer dans des boucles. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller convaincre des entreprises et les milieux privés de mieux concevoir les objets. Et finalement, si les objets, et j'ai travaillé sur quelques projets depuis 10 ans dans l'économie circulaire, notamment sur des sièges, sur des chaises de bureau, ça a pris un petit peu de temps à les développer, ça a coûté un peu d'argent à la base, mais in fine, une fois que tout a été fait, on est capable de récupérer pratiquement 100% des matériaux qui composent la chaise. Comme c'est des chaises qui sont de haute qualité et qui sont garanties 10 ans, finalement, ces matériaux, on va les garder dans des boucles pendant très, 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 très longtemps, ce qui fait qu'on sait quel sera le prix de l'aluminium qui va composer cette chaise ou le plastique de la production dans 10, 15, 20, 30 ans. Est quelque chose qui est intéressant pour les entreprises parce que l'évolution des coûts des matières, personne ne peut le donner. On sait qu'on utilise toujours plus de matières, qu'on continue à augmenter notre conception, notre consommation de ressources. On sait que les prix sont volatiles et que les prix sont fixés en fonction de la demande, de l'offre et de la demande. Donc il y a un risque clairement pour les entreprises qui ont besoin d'aluminium, de cobalt ou des choses comme ça. On le voit déjà dans le bâtiment avec le cuivre. Que dû à la mauvaise conception des produits, la mauvaise récupération, mauvais recyclage, on a des prix des ressources qui vont monter. Donc on essaie aussi de convaincre les gens qu'économiquement, il faudra changer la conception pour pouvoir rendre le recyclage au même niveau de qualité, attractif du point de vue économique. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec le Business Lab et puis les start-up. Au Impact Hub. Alors dans les startups, moi je suis mentor de quelques startups, effectivement, et il y en a qui sont effectivement assez ce qu'on appelle low-tech, peu de technologie, mutualisation, éco-quartier où on met en relation des gens, des citoyens qui partagent des objets, ça c'est des choses. Mais on a aussi des startups, dont une avec laquelle je travaille, qui vise à complètement changer la conception des baskets, des chaussures. Prendre des matériaux qui sont de meilleure qualité, prendre des matériaux qui, dès la conception, on développe des polymères pour qu'ils soient recyclables sur plusieurs cycles. On va s'intéresser aux intrants, on va s'intéresser au montage, faire des montages faciles pour qu'en fin de vie, on puisse facilement démonter et remettre dans ces boucles tous ces différents matériaux, que ce soit la partie polyester qui est le dessus, la partie de la semelle, les lacets, les œillets, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses extrêmement poussées. On va changer avec, on va récupérer aussi un peu de la nouvelle technologie, parce qu'on va avoir des puces dans les différents matériaux, qu'on puisse les suivre, les tracer, et que quand les chaussures arrivent, facilement, on puisse les démonter, repartir dans la bonne boucle, parce que les matériaux et les composants de ces matériaux auront été identifiés. Mmh. Donc ça, c'est vraiment des choses où on va aller beaucoup plus loin que de la réutilisation. On va vraiment essayer de développer, changer complètement la conception, la manière dont on conçoit une paire de chaussures.
Oui.
Si je peux juste abonder sur ce qui vient d'être dit, effectivement, mais sur l'industrie du smartphone, on en a parlé juste avant, mais pour donner un exemple concret, un smartphone, on sait qu'il faut environ 70 kg de matière première pour produire un smartphone de 200 à 300 grammes. C'est-à-dire qu'il y a 70 kg de matière qui seront extraites, Et ça peut être des métaux précieux, des terres rares, etc., qui sont souvent extraites dans des conditions assez, difficiles. Donc, et en plus, ce téléphone va faire, avant d'arriver dans un distributeur ici, va faire environ 4 fois le tour du monde, puisqu'il aura été, la matière aura été extraite à un endroit, transportée ailleurs, assemblée ailleurs, retransportée ailleurs, et ensuite revenir en, dans le pays où il va être vendu. Donc il fait environ 4 fois le tour du monde. Et ensuite, sur l'éco-conception, ce qu'on peut dire, nous, on a aussi un programme de recyclage pur, en fait, qu'on travaille en partenariat avec un organisme de recyclage. Et là, on a environ 80 000 téléphones qu'on recycle par année, hein, qui sont des téléphones qui n'ont plus de valeur, finalement, sur le marché. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les anciens téléphones, donc des Nokia 3210 qu'on avait à l'époque, on arrive beaucoup mieux à valoriser, finalement, la matière, puisque tout se démantèle beaucoup plus facilement que si je vous dis, par exemple, un iPhone 4, qui aujourd'hui n'a plus forcément de valeur, mais où les batteries sont collées, etc., et les gens qui vont... C'est aussi non seulement on n'arrive pas à valoriser la matière, mais c'est non seulement dangereux pour ceux qui vont les manipuler, puisqu'ils doivent du coup décoller les batteries avec des risques parfois d'explosion, etc. Donc effectivement, l'éco-conception est très très importante dans l'industrie aussi du smartphone.
Merci beaucoup. Et donc je pense, on ouvre un peu le débat maintenant. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes prêts ? Vous êtes déjà dans l'esprit ? Qu'en pensez-vous ?
Oui, on a ici. Oui, merci beaucoup. Merci de votre présentation. J'ajouterai, si possible, juste une anecdote qui me semble clarificateur de la situation contre laquelle vous êtes en train, il me semble, de faire une bataille très, très, très appréciable. Une histoire de l'histoire industrielle. Qui a été renommé, c'était le cas de M. Henry Ford, celui qui faisait des voitures, qui avait mandaté à une commission de techniciens de son entreprise de faire une étude sur les causes qui avaient amené les voitures à terminer leur cycle de vie. Donc, il avait mandaté une étude. Les ingénieurs avaient examiné les voitures à la poubelle. Ils avaient fait une liste des composants qui étaient l'origine, qui étaient cassés, qui avaient léché, et la liste des composants qui étaient encore en ordre. Ce qu'il a fait après, c'est de mandater aux ingénieurs de la conception, vous avez mentionné le problème de la conception, de refaire la conception des composants que n'avait pas lâchés pour les économiser et de faire de manière qu'eux aussi lâchent de temps en temps. L'argument est très important. La conception, vous avez... Alors, le pauvre Henry Ford, lui, doit vendre la voiture. Moi, maintenant, lui, il avait la chance que les voitures, c'est un composant mécanique. Donc, on apprend aux étudiants de l'école d'ingénieurs à faire le calcul de la durée de vie d'un composant mécanique. Maintenant, avec l'électronique, c'est terrible. C'est terrible pour les concepteurs. Pourquoi ? Parce que l'électronique, c'est du silicium avec des impuretés là-dedans, du cuivre, etc. Donc, d'ici à 1 million d'années, mon caillou là que j'ai dans la poche sera encore en fonctionnement parfait. L'électronique ne se casse jamais. Ce qui se cache là-dedans, c'est la batterie, parce que c'est un cycle, ou bien le connecteur, etc., etc. Donc, malheureusement, j'ai peur que... C'est très appréciable, les considérations, les réparations, mais on a devant nous une logique de la conception que malheureusement, vous l'avez mentionné, ça travaille dans la direction opposée. Merci de votre attention.
Jérôme, vous voulez ajouter quelque chose ? Non.
Okay. Je veux juste ajouter un mot. Effectivement, on doit revoir la conception, mais si je veux avoir
quelques lueurs d'espoir et puis des choses un peu positives. Moi, j'ai travaillé sur des modules, j'ai enseigné un petit peu à Hautes Écoles à Lucerne, au niveau section design, l'économie circulaire. Et il y a 5 ans en arrière, on nous regardait, l'air de dire, écoute, laisse tomber. Enfin, nous, c'est pas comme ça qu'on a appris à concevoir. Et puis, depuis une année ou deux, les élèves sont extrêmement sensibles et viennent avec des propositions et des idées absolument merveilleuses. Donc on peut éventuellement arriver à implémenter cette idée de pensée, cette nouvelle manière de concevoir à des jeunes. Ce ne sera pas forcément facile, mais enfin, moi j'ai quand même quelques exemples qui montrent qu'il y a de l'espoir de changer la conception de l'éducation.
Ça m'est revenu ce que j'avais en tête. Mais ce qu'il ne faut pas, je pense, sous-estimer aussi, c'est le pouvoir finalement du consommateur. Parce que, bien sûr, l'entreprise ne va pas forcément vouloir changer sa manière de construire les choses si elle continue à vendre autant de produits que l'année d'avant, si ce n'est plus. Du coup, elle va continuer à entrer dans ce mode de fonctionnement. Une entreprise, elle voudra vendre des produits pour faire tourner son entreprise. Si derrière le consommateur, finalement, aussi change sa mentalité et se dit, je vais me diriger plutôt vers des produits qui sont conçus d'une manière différente ou des produits de seconde main, effectivement, il n'y a pas de raison, finalement, que les industriels, à un moment donné, quand ils verront leurs ventes qui diminueront aussi, ne se disent pas, je dois aussi changer quelque chose si je veux continuer à faire progresser mes ventes. Et je pense que le pouvoir du consommateur n'est pas à sous-estimer dans cet aspect-là. L'entreprise, elle ne changera pas toute seule. Il faut qu'on lui fasse mal à son porte-monnaie. Et finalement, ça, c'est le consommateur finalement qui va pouvoir influencer ça, je pense.
Mais c'est pas tout le temps facile. Hein. Des fois, on a des produits comme, je sais pas, la vaisselle. Hein, moi, j'ai changé récemment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'appelle, la partie ordinateur. Hein, qu'est-ce que c'est comment il s'appelle ça? Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, quelque chose ne marchait plus. Et donc, le monsieur est venu pour... J'ai appelé le monsieur qui est de la firme qui m'a vendu la vaisselle. Et... il m'a dit, bon, il faut changer toute la partie électronique et voilà, ça va vous coûter, je ne sais pas, c'était 500 francs. Et donc, bon, ici en Suisse, ça va encore, peut-être ça coûtait plus hein, de changer la vaisselle. Mais des fois, on se demande, ben, est-ce que ça vaut la peine de réparer ou, voilà, on est encore pour certaines choses où le coût de la réparation est beaucoup plus haut ou, par rapport à changer le produit.
Peut-être juste un commentaire par rapport à tout ça. Je crois que c'est très clair que pour le moment, pour les entreprises, à part dans certains marchés de niche, avec des consommateurs très spécifiques et conscients, etc., les incitations vont plus vers une économie linéaire que vers une économie circulaire. Ça me paraît assez clair. Il y a des estimations, alors après, on peut les prendre plus ou moins sérieusement, mais qui montrent que c'est moins de 10% des ressources qui sont remises en circulation dans l'économie. Donc on crée des boucles vraiment au travers du recyclage, du compostage, etc., de manière très faible au niveau mondial. C'est une estimation, ça vaut ce que ça vaut. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur la question des modèles d'affaires circulaires, donc d'essayer de faire que ce soit profitable pour une entreprise de mettre en pratique ces principes de conception, donc de travailler sur la qualité de ces produits en vue de pouvoir, donc conception modulaire, choix des matériaux, etc. Et l'idée, c'est de passer vers des transactions où on vend des produits à des transactions où on vend des services, où la propriété des produits reste chez l'entreprise, pour qu'en fait, ça soit que cette entreprise récupère la valeur résiduelle des produits après leur utilisation. Donc que ce soit profitable pour l'entreprise de concevoir de manière circulaire. Sinon, elle conçoit de manière circulaire, ça lui coûte cher, plus cher que d'habitude, elle vend son produit et puis... ça ne marche pas, disons. Là, il faut qu'elle récupère son produit après l'utilisation. Donc, c'est tous ces sortes de... tous ces modèles qu'on expérimente actuellement pour essayer de rendre profitable le travail sur la conception des produits.
Merci, Nils. Voilà, on a... qui était au début? Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. Igor, c'est... OK.
Oui, bonsoir. J'avais plusieurs réactions par rapport à ce qui a été dit. Déjà, je m'inscris partiellement en faux par rapport à ce qui a été dit entre l'obsolescence mécanique par rapport à l'obsolescence électronique. Parce que finalement, pour un fabricant de software comme Microsoft, pour le citer, c'est pas très compliqué de faire des programmes qui deviennent tellement lourds et qui recrutent tellement de mémoire qu'on arrive à rendre obsolètes des ordinateurs qui peuvent théoriquement encore fonctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des composantes électroniques qui peuvent être sensibles, par exemple à la chaleur. C'est-à-dire que suivant où on place le composante électronique par rapport à l'alimentation, on peut le faire griller, tout simplement. Après, on organise le Reaper Café à Neuchâtel, si jamais après je vous donnerai des petits flyers. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs. Un aspirateur, fondamentalement, on en a deux ou trois dans le garage là-bas qui traînent parce que c'est la carte électronique qui ne fonctionne plus. Et l'aspirateur en lui-même, théoriquement, il pourrait très bien fonctionner. Mais on ne sait pas où ça bug et aller dans les tout petits schémas électroniques, on ne s'en sort juste pas, quoi. Ça, c'est un des points. Et après, par rapport à rendre une économie circulaire qui soit viable pour les entreprises, dans le cadre du Reaper Café, c'est effectivement quelque chose qui nous interpelle, qui nous interroge. Si vous démontez, j'adore l'exemple de l'aspirateur parce que quasiment tout le monde en a un, puis c'est vraiment quelque chose qu'on change très facilement parce qu'il ne suffit de pas grand-chose pour qu'il soit plus fonctionnel. Et si vous mandatez quelqu'un, ne serait-ce que pour l'ouvrir, pour avoir le bon tournevis, parce qu'en plus il y a des tournevis pour empêcher qu'on puisse accéder au bloc d'alimentation, parce que soi-disant c'est pour la sécurité, vous vous retrouvez dans une situation où ça vous prend une demi-heure, une heure, et dans un pays comme le nôtre, où on a des salaires qui sont élevés, vous avez largement meilleur temps, d'un point de vue purement financier, du point de vue du consommateur, de racheter un appareil. Donc, comment rendre viable ça? Parce que nous, on a plein de bénévoles et c'est hyper sympa de voir ça. Mais finalement, on n'arrive pas à en générer un modèle qui soit économiquement viable et où on pourrait faire vivre des gens de ça. Il y a eu récemment, il y a quelques semaines, une vidéo sur trois jeunes retraités, trois personnes qui venaient d'être retraitées dans la région de Cossonay, sauf erreur, qui ont monté l'équivalent d'un Reaper Café. Mais ils bossent quasiment à 100%, quoi. Mais pourquoi ils peuvent se permettre ça? C'est parce qu'ils sont à la retraite, qu'ils ont leurs revenus et puis qu'ils n'ont pas besoin d'en vivre. Et je m'interroge vraiment de savoir, y a-t-il des modèles où on arrive à développer quelque chose qui soit viable, où on puisse vivre de ça? Merci.
Merci. On prend peut-être encore une question, là. Comme ça,
Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais juste rebondir sur trois points. Déjà, par exemple, sur la Ford. Il faut savoir que déjà Henry Ford, il a fait la Ford T, c'était donc pour relancer l'économie de marché. C'était donc la première voiture qui était en fait fonctionnelle, et puis en fait elle n'était pas belle, elle faisait du bruit, mais en fait ce qu'il voulait faire, c'est tout le monde une voiture pour monsieur tout le monde. Et c'est après Chevrolet qui s'est dit, je vends toutes mes voitures à la chaîne, tout le monde en a acheté une, plus personne en a acheté puisqu'elle est fonctionnelle. Après il y a justement Bernard London qui a justement implémenté l'obsolescence programmée en disant avoir quelque chose de nouveau un peu plus rapidement, pour justement relancer cette économie de marché. Et c'est là en fait où il y a eu en fait une dérivation avec déjà le premier cartel, le cartel Phébus, pour les ampoules, parce qu'il faut savoir que les premières ampoules de Thomas Edison avaient une durée de vie de 10 000 heures, et puis une ampoule qui a une durée de vie de 10 000 heures, aucune entreprise d'ampoule peut survivre, parce qu'une ampoule qui dure 10 000 heures, on va pas en racheter avant un bon moment. C'est pour ça que le cartel Phébus, par exemple, a d'abord demandé aux ingénieurs de trouver une façon que les ampoules aient plus que 2500 heures de durée de vie. Donc là, moi, ce que je trouve ce qui est grave, c'est que là, on parle des smartphones, c'est clair que c'est un sujet complètement actuel, mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des objets de tous les jours que les gens ne se rendent pas compte, qui ont déjà une obsolescence programmée mais depuis plus de 60 ans. Et puis je pense que moi, peut-être s'attaquer, je dirais, à la surface, au smartphone, parce que là, déjà, les jeunes, maintenant, avec Internet, il y a les tutos, il y a YouTube, on voit comment changer si il y a un petit software pour jailbreaker, enfin, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait plus, quand même, déjà mettre le doigt sur vraiment le fondement de la chose, quoi, vraiment le problème de la chose qui vient vraiment du cartel Phébus, quoi. Même pour les bas, les premiers bas pour les femmes qui ont été créés étaient indestructibles. Maintenant, une femme qui achète des bas, elle va en acheter peut-être deux, trois fois par mois. Ça, c'est des ingénieurs qui ont regardé comment faire que le fil en nylon soit justement cassable à telle période. Et c'est ça qui est grave. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faudrait déjà, je pense, remettre en cause. Et ce n'est pas le consommateur qui peut changer ça. Parce que le consommateur, ben, il a une vie, il a un boulot, il a une vie privée, il a sa croix à porter. Ça serait plutôt, moi je dis, il faudrait vraiment... et puis en plus, ben, les entreprises, dès qu'elles voient, quand un pays essaie de mettre quelque chose contre l'obsolescence programmée, qu'est-ce qu'ils font? Ils délocalisent. Donc voilà, c'est difficile. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de connaissance vraiment collective et pas juste justement sur un produit ou un autre. Et puis le consommateur, c'est pas, je pense, la première personne. Il faudrait voir, plutôt vraiment voir le côté étatique que justement avec des, comme ils disent, ben, une TVA moins chère, enfin une TVA moins élevée pour des entreprises qui feraient du recyclage ou comme ça. Et peut-être aussi proposer aux entreprises qui ont des produits que si on les rend avec une durée de vie plus longue pourraient faire faillite. Ben, leur proposer peut-être d'autres choses comme des services supplémentaires qui feraient qu'ils pourraient perdurer dans le temps. Parce qu'au début, ben, on avait une économie de croissance, croître pour satisfaire un besoin, puis maintenant c'est croître pour croître. C'est juste pour engranger plus de bénéfices. Mais si on répartissait mieux ce bénéfice, parce que ce bénéfice, il arrive à qui? Il arrive au patron de la multinationale qui a un salaire à 9-0. Je veux dire, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça, quoi, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de toute façon... cette monnaie intrinsèque, il n'y a pas autant de billets que ça, c'est juste des chiffres sur un écran. Donc maintenant, pourquoi pas mieux répartir ça de façon à ce que justement, ben, rééquilibrer les choses. Enfin, je sais pas.
Merci beaucoup. Vous voulez prendre encore une question? Oui, on prend les deux. Hein. Ah, vous voulez... Oui, Laurent?
Alors, volontiers. Alors, le constat, enfin, qu'on produit mal, puis qu'on a produit, qu'on la qualité est descendue sur les 30 dernières années, on le sait maintenant. Bah, ce qu'on va faire, c'est, si on est tous là, c'est parce qu'on a envie de changer quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est le consommateur, est-ce que c'est le producteur? Si on se renvoie la balle, on ne va jamais y arriver. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur tous les axes avec l'Impact Hub et puis Sanu de Habitat, recommandations politiques pour essayer de faire changer des choses, faire des recommandations, mais changer aussi l'industrie et changer le consommateur. Maintenant, le consommateur, si je prends l'aspirateur, ça ne sera pas forcément facile. Là, on parle justement d'éco-conception. Les aspirateurs ne sont clairement pas faits pour être réparés. Ils sont faits pour être très bon marché, comme beaucoup de produits. Maintenant, quand on voit des répars café, il y a un projet justement du Impact Hub qui est la Manivelle à Genève. Qui propose de mutualiser des objets. Ils ont lancé ça et finalement ils ont eu des centaines de demandes avec des jeunes qui se disent mais comment est-ce que je pourrais faire ça dans ma ville aussi. Et s'il y a des centaines de répar café et qu'il y a un tas de clients qui se disent ben tiens c'est sympa je vais donner un répar café, à un moment donné les grandes marques vont se dire tiens on est en train de perdre des consommateurs. Tiens il y a le consommateur de demain qui demande quelque chose d'autre. Donc on a des chances quand même pour que ça change les choses. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça peut changer les choses. Si je regarde un exemple dans la nourriture, dans l'emballage, moi je viens de Lausanne, en quelques années, il y a 5, 6, 7 magasins sans emballage. Tout d'un coup, le dernier magasin qu'une grande surface a ouvert au centre de Lausanne, il y a tout un rayon sans emballage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils suivent quand même et qu'ils se rendent compte qu'il y a une transformation, qu'il y a une clientèle qui demande autre chose et que ça met de la pression. Ça ne sera effectivement pas facile, mais je pense que toute action est bonne à prendre. Si d'un coup, il y a un tas de gens qui se disent « Non, moi, je ne veux pas un téléphone neuf, je vais aller chez Recommerce, pardon. Les marques vont se dire « Tiens, on est en train de perdre des consommateurs parce qu'on perd le flux de nos produits, donc on va peut-être les concevoir différemment pour garder nos consommateurs. » Donc c'est un ensemble de choses, ça sera certes pas facile, mais c'est en tout cas nous à quoi on essaie de s'employer. Et on félicite toutes les initiatives de Répar Café, et de que ce soit des jeunes ou des jeunes retraités qui se disent « on va changer les choses ».
Juste pour l'exemple de la machine à laver, pour le coup, je lisais un article cet après-midi, c'est pour ça que ça me revient en tête. Nous, on travaille avec Vezug, notamment, qui fabrique entre autres des machines à laver, plutôt de bonne qualité, parce qu'ils sont sur un secteur, ils sont sur ce segment-là, si vous voulez. Mais disons, il y a des systèmes, là c'était un cas danois, c'est justement pour exemplifier les business, les modèles d'affaires dont je vous parlais précédemment, de ce qui s'appelle pay per wash. Donc vous achetez plus votre machine à laver, vous payez pour chaque machine à laver que vous effectuez. Donc ça veut dire que l'entreprise vous vient chez vous, vous met à disposition la machine à laver, mais elle ne vous appartient pas, vous payez simplement, il y a évidemment un système qui compte, décompte le nombre de machines que vous faites, la température, les cycles, etc. Tout ça. Ce dont on se rend compte, si vous voulez, c'est que l'entreprise a tout intérêt à ce que sa machine tombe pas en panne au bout de 3 semaines, parce que là, ce sera pour elle, elle va devoir revenir, réparer, il faut donc à concevoir sa machine de manière intelligente. Et les consommateurs, en fait, le nombre de machines baisse, les températures baissent, donc en plus, il y a un impact, si vous voulez, sur le comportement des consommateurs. Donc c'est juste pour donner un exemple. L'autre exemple par rapport aux ampoules, c'est l'exemple de Philips. Je n'ai pas demandé si on pouvait... Bon, on a nommé des marques déjà, plein de marques. Mais c'est un exemple fameux dans le domaine de l'économie circulaire. Faudrait se renouveler un peu. Mais un exemple fameux, c'est donc Philips à l'aéroport d'Amsterdam qui vend à l'aéroport en fait l'éclairage de ces... qui vend pas, si vous voulez, des lampes ou des ampoules, mais qui vend le service d'éclairer selon des conditions fixées à l'avance entre les deux parties, le service d'éclairer cet aéroport. Donc ça veut dire que, en l'occurrence pour eux, et on a observé ça, disons c'est intéressant que leurs ampoules durent très longtemps. Alors peut-être pas 10 000 heures, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, disons, mais c'est juste pour vous expliquer la logique, disons, de ces modèles d'affaires circulaires. Par ailleurs, comme je l'ai dit, à mon avis, les incitations sont plutôt encore dans l'économie à des modèles d'affaires linéaires, mais donc c'est ce sur quoi on essaye d'agir. Oui.
Peut-être juste aussi pour donner un exemple encore sur le smartphone, je suis désolé, mais du coup, effectivement, quand on regarde une marque comme Fairphone, qui a justement un producteur de téléphone qui réfléchit justement à pouvoir démanteler son téléphone, pouvoir réparer les pièces, etc. Il connaît un certain succès, mais pas non plus un succès énorme comme Apple, comme Samsung, comme Huawei ou je ne sais quoi. Et finalement, là, c'est là que je voulais en venir avant, quand je disais le pouvoir du consommateur. C'est aussi au consommateur de se dire, bon ben, j'adhère à ce genre de produit, donc j'achète ce produit. Or, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'on a acheté, même si on sait très bien qu'un Apple, un Samsung, il ne sera pas réparable ou difficilement, on va quand même y aller parce qu'on subit la mode, on subit, je sais pas, la pression sociale ou je ne sais quoi. Et du coup, on ne va pas se diriger vers des téléphones comme ça. Donc, c'était un petit peu l'idée du pouvoir du consommateur. C'était aussi de pouvoir faire grandir finalement des marques qui réfléchissent autrement.
Merci pour ces réflexions. Oui, alors on prend les deux questions peut-être.
Oui, je serai très bref, mais j'aimerais savoir au niveau économique, est-ce que l'économie circulaire est compatible avec un modèle de croissance ou est-ce qu'on va évidemment vers une décroissance? Parce que c'est une question qui me paraît assez fondamentale, quoi.
Alors, clairement, ça reste pour l'instant, à mon avis, trop théorique, mais ça pourrait être possible. On parle de découplage entre la croissance économique et l'utilisation des ressources. On en parlait juste avant, en buvant un café, on disait il y avait un petit signe recycle, qui est un système de vaisselle réutilisable. On peut avoir des centaines d'événements outdoor. Si au lieu de vendre de la vaisselle avec des plastiques à usage unique, on vend le service d'amener des assiettes, de venir les rechercher, les laver et puis de les remettre en circuit, économiquement, on a dépensé certainement la même somme, sauf qu'on n'a pas utilisé autant de ressources. Donc dans l'économie circulaire, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire quand même. Ça ne va pas être facile. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile d'aller dans une entreprise, puis on lui dit, ce qu'il faut faire, c'est moins produire. Donc on espère, avec l'économie circulaire, de dire, on vous propose un autre système, une autre forme de revenu, qui est plus le service, plus basé sur le service, plutôt que de vendre uniquement du produit. Pour que, économiquement, il y ait quand même une... On ne peut pas casser la machine du jour au lendemain. Et donc, arriver à avoir une transition, c'est cette transition que vous allez faire, Nils en parlait aussi, c'est de réinventer les métiers, les métiers de demain. Bon, il y a 4 ans en arrière, j'ai participé à un workshop organisé par la communauté européenne en France, et il y était question, c'était l'économie circulaire et l'emploi. Comment est-ce qu'on peut créer des emplois, donc, la richesse économique localement, et finalement quand on répare une machine, si on la répare en Suisse, on crée de l'emploi en Suisse, alors que quand aujourd'hui on achète un bien qui a été produit très très loin qu'on utilise, puis après qu'on envoie en Afrique pour être recyclé, économiquement, sur le territoire, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, c'est essayer de trouver justement des modèles où on va plus réparer, donc employer des gens, et avoir ce fameux effet de découplage entre croissance économique et utilisation des ressources et émissions diverses. Mais ça reste malheureusement aujourd'hui encore trop de la théorie, mais on a démontré que c'est un modèle possible.
Merci Laurent. On a... Oui, vous avez...
Oui, alors mais moi j'ai un peu l'impression que vous êtes extrêmement timide dans votre démarche là, parce que vous êtes un peu, vous avez des belles idées, vous pensez que 2-3 consommateurs vont peut-être jouer les jeux, mais aujourd'hui maintenant avec la grève du climat, on a quand même vu qu'il y a aussi une urgence, quoi. C'est pas seulement nice to have, mais maintenant j'aimerais un peu vous retourner la balle et puis dire mais maintenant si... Alors, vous avez dit 10% c'est fait, 90% reste à faire. Si on se donne maintenant jusqu'en 2030, dire on veut inverser, on veut avoir 90% qui tourne en boucle et puis 10% encore dans le sens unique. Est-ce que vous avez des recettes là ? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire ? Ou bien est-ce que vous voulez juste continuer à attendre qu'encore 2-3 consommateurs et puis 2-3 entreprises, ils ont peut-être un succès hein ? Vous sentez pas aussi une urgence qu'il faut vraiment bouger ? Et puis juste encore pour dire, j'ai quand même une idée que les conditions de bord, ils ne fonctionnent pas. Quoi. Alors l'économie, elle peut être super, mais si les conditions de bord sont mauvaises, enfin, il n'y a rien qui se passe. Quoi. Votre Natel avec 70 kilos de pollution ailleurs dans le monde, il vient ici en le vendant sympathique pour quelques centaines de francs. Mais je veux dire, ce qui était fait à l'étranger, si vous faites ça ici au bord de l'Arc de Neuchâtel, ça vous coûtait millions d'amendes au niveau de pollution. Mais juste parce que ça, on importe ça en Suisse, enfin, voilà, maintenant il n'y a plus de... Il n'a rien à faire, quoi. C'est la liberté du commerce, et puis voilà, l'affaire est déclassée. Quoi. Alors, qu'est-ce qui sont les recettes qui nous garantissent qu'on va aboutir dans 20 ans à inverser la tendance ?
Merci.
Alors, voilà la recette, c'est très simple. Non, je plaisante. Ça serait chouette, j'aimerais bien. Mais, l'urgence, je pense qu'on peut tous, s'accorder, en tout cas pour ma part, c'est le cas. Juste aussi pour peut-être reprendre un peu en les deux. Je crois qu'on peut réfléchir à l'économie circulaire. Il faut aussi réfléchir, évidemment, je le disais dans la partie renoncer, au niveau de consommation individuelle, en fait. Et donc il y a toute une série de réflexions sur la notion de suffisance qu'il faut mener, je crois. Et évidemment que ça a un impact sur ensuite la croissance économique si on continue à la calculer telle qu'on la calcule actuellement. J'ai donc pas la réponse à votre interpellation, sauf que je partage l'urgence. Simplement, moi, je pense qu'il faut travailler très fort avec les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur permettre de faire du greenwashing, de dire c'est super, on est pour l'environnement, etc. Mais la question de la production, du régime de production, de l'organisation de la production, de la manière avec laquelle on produit, on conçoit les objets, elle est centrale. Et j'ai l'impression que, disons, dans un certain discours, on considère que bon, finalement, on va faire un peu d'un jardin de permaculture et puis qu'on va s'en sortir comme ça. Je pense que on ne peut pas envisager la transition sans envisager la transition des entreprises, donc de la production des biens et des services. Donc c'est juste, ça ne répond pas à votre question, mais c'est une conviction. Et d'autre part que ces entreprises-là sont très très différentes les unes des autres. On dit les entreprises, disons qu'on peut agir sur certaines entreprises plus facilement que sur d'autres, etc. Donc évidemment les conditions cadres, et là le rôle de l'État est très important, disons. Mais je pense que, il faut faire face à ce problème de la production et de son impact environnemental. On ne peut pas simplement évacuer l'histoire en se disant on va s'en sortir autrement.
Alors, je ne sais pas si on est très timide, mais on n'est pas représentatif de l'économie ou d'un parti politique ou qui que ce soit. On essaye de faire des choses. Moi, titre personnel, je travaillais dans le textile. J'avais une entreprise, je l'ai vendue pour consacrer pratiquement tout mon temps à essayer de faire la promotion de l'économie circulaire. Donc, je fais ce qui est possible à mon niveau. Et comme Nils le disait, moi, mon parti, c'est plutôt d'essayer de travailler avec les entreprises, même si je reconnais qu'il y a des groupes plus activistes et autres qui mettent de la pression. Je pense que c'est très bien. bien. Moi, j'ai pris le parti d'essayer de travailler avec les entreprises pour les faire changer. Je n'ai effectivement pas la méthode et pas la recette miracle, mais depuis 10 ans, bah, je m'y emploie et puis je continuerai à m'y employer avec toute l'énergie que je peux consacrer à cette transition.
Merci. On a encore une question.
Merci. Je voudrais revenir sur la démarche dont vous avez parlé de peut-être passer d'une économie de l'entreprise qui produit un produit, qui vend un produit, à une entreprise qui vend un service. Parce que un secteur de l'économie dans lequel ça s'est passé, c'est le secteur du logiciel, par exemple. Et on voit que dans ce secteur-là, les fabricants de logiciels se sont servis de ça pour détruire toute l'économie de seconde main, pour extraire le maximum de valeur de leurs produits. On voit ça alors sur les jeux vidéo, on peut citer Steam qui a tué toute la concurrence, ou bien je pensais à Adobe pour, qui s'est fait faire un procès parce qu'ils ne voulaient pas qu'on revende leur logiciel d'occasion et qui depuis ont décrété qu'on ne pourra plus acheter leur logiciel, ils seront seulement achetables sur abonnement. Donc vous parliez des perceuses ILTI sur lesquelles maintenant on va peut-être les vendre comme un service, mais à l'époque, si je voulais m'équiper avec du matériel professionnel, ben, je pouvais acheter ILTI parce que c'était une bonne marque et je savais que je pouvais peut-être les revendre dans quelques années parce que j'avais acheté du matériel professionnel, les revendre à un amateur qu'ils auraient acheté moins cher pour financer mon rééquipement. Alors je comprends que ça peut peut-être amener à... que les marques sont intéressées à extraire de la valeur dans ce circuit de réutilisation, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont utiliser cette valeur extraite pour améliorer leur impact écologique ou juste pour maximiser leurs profits ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les encourager à être plus écologiques ?
Ouais, alors, ça, c'est évident. Enfin, c'est évident qu'on peut... qu'on peut jamais vraiment être sûr du but final. Alors, logiciel, est-ce que ça a amélioré quelque chose que maintenant on doit avoir un abonnement Office plutôt que d'avoir devoir acheter Office toutes les années ou quoi quand il y a des nouvelles releases. C'est pas forcément évident de savoir. Est-ce que Microsoft est devenu plus monopoliste avec son software as a service plutôt que le logiciel standard. En tout cas, dans cet exemple-là, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'ils permettent moins en fait, le piratage ? Peut-être. Est-ce qu'à travers, ben, je ne sais pas si on prend Google et d'autres services qui sont gratuits, mais qui sont donnés comme service, est-ce que ça améliore le bien-être du consommateur ? Est-ce que ça utilise moins de ressources ? On sait que les serveurs Google utilisent des ressources énormes. Ce n'est pas clair non plus. Donc, effectivement, ben, c'est un point. Avec ben, toute la problématique qu'on discutait avant, du fait que ben, comme c'est software as a service, ça veut dire qu'en fait, Google sait tout ce qu'on fait sur son logiciel. Et puis du coup, il y a toute cette problématique que ben, finalement, Google qui est une entreprise de... qui vend des publicités, du coup, nous incite à consommer plus d'autres produits par la suite, donc qui peut aussi probablement causer un problème par la suite. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à toutes les entreprises ? Pas forcément. Alors, là, ILTI, c'était un exemple. Il y a des autres exemples d'entreprises qui vendent, je sais pas, des habits pour bébé. Donc, c'est un truc qui est assez sympa où ben, l'habit pour bébé, vous le mettez un mois. Après, ben, soit vous le donnez à votre petite sœur qui a aussi un enfant, soit il est stocké pour, à la limite, vos enfants quand ils sont grands. Là, l'idée, ben, c'est de se dire, ah ben tiens, en fait, moi, j'utilise le petit habit pour bébé, je l'utilise un mois, je le renvoie à l'entreprise, elle me renvoie un habit plus grand, etc. Donc, dans certains cas, dans ce cas-là, ben, c'est une entreprise danoise qui fait ça, probablement tu connais, qui, ben, son incitatif, c'est de se dire, ah ben en fait, cet habit, en tout cas dans la théorie, c'est un habit qu'on peut... qui est durable, qu'on peut garder plus longtemps, ben, qu'on redonne à plusieurs consommateurs, donc on a une sorte de cycle. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est forcément... on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'ils font avec ces habits après ? Est-ce que vraiment ils les réutilisent ou pas ? Ça, ben, c'est après aux consommateurs de ou bien plutôt peut-être au groupement de consommateurs, d'aller voir si effectivement c'est le cas, pour faire en sorte que on soit informé de choix judicieux pour la consommation.
Juste rebondir, parce qu'il y a une société dans l'incubateur d'Impact Hub qui est basée à Neuchâtel, qui s'appelle Biboutique, qui justement offre des services d'avoir le carton avec les bons produits pour les jeunes mamans, et également pour les vêtements de grossesse, des choses qui normalement on n'utilise pas des années et des années. Donc ce service existe en Suisse, et puis dans la démarche, par la suite, moi je commence à les mettre en contact avec des gens qui, dès la production, réfléchissent pour que ce soit des produits de qualité, qu'on puisse vraiment rentrer dans les boucles. Donc la première chose, eux ont commencé par faire ce système de location, et puis l'étape d'après, ce sera de parler avec les producteurs pour changer effectivement aussi la conception. Donc c'est un service qui existe à Fribourg, pardon, pour Neuchâtel, à Fribourg. Et il y en a un autre en Suisse allemande aussi dans un incubateur. Donc c'est des choses, encore une fois, c'est des petites initiatives, mais c'est des choses qui existent et qui sont en train d'émerger, et c'est intéressant de les suivre.
Puisqu'il n'y avait pas d'autres questions, je me permets. Moi, je vous avoue que cette question de dépendance à une entité me gêne beaucoup. Vraiment. Parce que, je veux dire, ces histoires d'avoir un habit pour bébé, c'est une excellente idée, hein, de pouvoir le permuter. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus que le magasin de seconde main en bas de la rue, quoi. Je veux dire, un vêtement, s'il est de qualité, on l'utilise pendant le mois où il est utile pour le gamin. On va dans le magasin de seconde main, alors on le revend ou on s'arrange pour avoir l'habit suivant à moindre prix. Enfin ça. Mais pourquoi vouloir absolument cette dépendance d'un seul ? Pour revenir sur l'histoire de Microsoft, il y a eu il y a quelques années un monstre scandale parce qu'en Amérique du Sud, les administrations avaient refusé de payer la licence suivante pour Microsoft et n'avaient plus accès à leurs données antérieures. Donc c'est vraiment, c'était devenu un pouvoir en tant que tel. Et ces modèles que vous décrivez nous rendent très clairement dépendants d'une entité, et j'aimerais bien entendre qu'il y ait des possibilités viables économiquement sans ce lien de dépendance.
Je crois que, pour reprendre l'exemple des habits, le fait que les habits se passent dans les familles, quand il y a des naissances successives, ça marche très bien aussi. Le magasin d'habits au coin de la rue d'occasion, ça marche très bien aussi. Donc c'est pas pour l'un exclut pas l'autre, disons, juste pour ce genre de système-là. Ce qu'il propose, c'est pour des gens qui n'ont pas une grande sœur qui a déjà eu des habits, qui vous refile les habits, ou etc., etc., une possibilité d'avoir des habits pour le temps qu'il faut. Et puis qu'ils grandissent en même temps que le bébé, vu que ça va assez vite au début. Et donc que ces habits-là aient en fait plusieurs cycles d'utilisation. Tout simplement, c'est un rallongement de l'utilisation des habits. Pour ce qui est de la relation entre le consommateur et celui qui fournit le service. C'est pour ça que j'ai dit dès le début que nous, on essaie de travailler sur les consommateurs, mais aussi sur les travailleurs, parce que je pense que là, ça change aussi la donne pour ce qui est des travailleurs. Mais sur les droits des consommateurs, c'est très important. Je rajouterais, j'ai pas de réponse directement, sauf effectivement à faire intervenir des associations de consommateurs qui surveillent de près ce qui se passe. Mais je rajouterais un élément, c'est qu'on a peut-être en tant que consommateur pas forcément envie d'avoir tout comme un service. Mon jeans, mon imprimante, les habits pour mes enfants, mon vélo, ma perceuse, que sais-je encore, ma machine à laver, etc. Donc dans quelle mesure on est encore tout au début, donc ça reste à explorer et à travailler. Mais dans quelle mesure les gens sont prêts tout simplement à ne plus posséder toute une partie des objets qui les entourent, c'est pour moi un problème. Après, je pense que ça dépend aussi des entreprises. C'est évidemment différent quand on parle de Microsoft que quand on parle de Biboutique à Fribourg, où c'est deux personnes très sympas avec qui on peut discuter autour d'un café. Enfin, je veux dire, la relation, elle est extrêmement différente aussi dans ces cas-là, et elles ne sont pas en position d'oligopole ou de quasi-monopole. Donc ça change quand même les choses.
Oui, alors juste pour, par rapport à ça, c'est pas dépendre d'une entité, parce que là, en l'occurrence, le service, elles vont avoir plusieurs produits et plusieurs marques. Elles ne vont pas créer, c'est pas un cercle complètement fermé, c'est d'aller proposer différents services. Et finalement, ce qu'il faut dans le seconde main, on le voit dans différentes choses, on le voit dans le téléphone, il faut recréer la confiance. Le consommateur, à un moment donné, il a perdu la traçabilité du produit. Il faut une entité au milieu qui redonne la confiance. Dans les vêtements ou dans les baskets, par exemple, il y a une super équipe à Genève qui s'appelle Dr Sneaker. Eux, ils reconditionnent, ils désinfectent, donc ils prennent des vieilles baskets et ils les désinfectent et ils les remettent en circuit. Ils ont l'impression d'être neufs. Donc, c'est pas d'être captif, c'est juste de proposer un service, de redonner de la confiance d'un produit qui est vieux, de le remettre en condition et de le remettre sur le marché. Et il n'y a absolument pas de dépendance. Alors effectivement, je voudrais en tout cas pas faire un amalgame entre ce que fait Microsoft et ce que font ces startups qui essayent de proposer des services et de, en l'occurrence, aussi créer des emplois.
Effectivement, et pour moi, on a dévié un petit peu sur l'économie de services, hein, dans l'économie circulaire, mais effectivement, il y a d'autres manières de faire l'économie circulaire aussi. Hein, finalement, c'est un peu notre modèle, mais il y a d'autres entreprises. Et nous, on essaie de redonner de la valeur à un produit dont le consommateur décide de se séparer. Et je pense que là, il y a aussi un moyen d'influencer un petit peu, d'influencer les entreprises, puisque si on veut qu'un produit ait de la valeur, à un moment donné, il faut qu'ils conçoivent aussi les produits de manière solide et qui dure dans le temps. Il y a des marques de téléphone qui ont plus de valeur que d'autres, hein, par exemple à la reprise, hein, après X temps, et ben, un téléphone d'une marque, on va proposer un peu plus de valeur qu'un téléphone d'une autre marque. Parce que déjà, il est peut-être conçu différemment. Deuxièmement, il est peut-être aussi un peu plus demandé. Donc ça influence aussi peut-être les producteurs, puisque eux, ils seront peut-être intéressés à se dire, bon, ben, moi, mon consommateur, comme par exemple la remarque sur Hilti avant, hein, on achète une perceuse Hilti, on sait que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je vais quand même retirer encore de l'argent de ce produit, parce que c'est un produit qui a de la valeur. Et je crois que c'est ça aussi, c'est d'essayer de... Jusqu'à aujourd'hui, les entreprises... à l'époque, les entreprises qui avaient du succès, c'était les entreprises qui produisaient des biens qui étaient faits pour durer. Donc voilà, quand un bien durait 15 ans, 20 ans, 50 ans, et ben, c'était une entreprise qui était jugée comme une entreprise de qualité et stable. Aujourd'hui, on juge une entreprise sur sa capacité d'innover. Si demain Apple ne sort pas cette année un nouveau produit, voilà, leur capitalisation boursière va certainement s'effondrer parce qu'ils sont plus capables d'innover. Alors qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'est plus capable d'innover, effectivement. Et donc, voilà, je pense qu'il y a cette idée-là aussi, il y a de la valeur résiduelle, et ça fait partie de la manière dont on conçoit les produits. Ensuite, pour moi, les entreprises, elles doivent aussi une manière de finalement de se dire, je peux récupérer de la valeur, c'est aussi de fournir des pièces détachées, parce que vous avez un Ripper Café, donc j'imagine que c'est pas facile de s'approvisionner en pièces détachées, parce que souvent c'est soit verrouillé complètement par les marques, ou la garantie tombe parce que vous avez utilisé une pièce détachée compatible et pas originale, etc. Donc c'est peut-être aussi pour les entreprises. Alors bien sûr, là, on va peut-être entrer dans une certaine dépendance par rapport à une marque, mais en tout cas, à minima, d'ouvrir les pièces détachées, la revente de pièces détachées aussi à tout un chacun, que ce soit des Ripper Café ou d'autres organismes agréés par la marque, par exemple. Mais voilà, c'est aussi un moyen de régénérer du revenu pour les marques. Hein. Je vends mes pièces détachées, je vends peut-être un tuto avec la manière dont je dois changer la pièce, etc. Donc c'est du service, où je forme j'ai des formateurs qui vont coacher des réparateurs pour leur montrer comment on répare un produit, etc. Donc ça fait peut-être aussi partie des visions futures d'entreprise.
On avait peut-être une question là-bas, non ? Oui.
Bonsoir, merci pour votre présentation d'abord, et puis je suis heureux de voir que des gens... travaille quand même sur ces sujets. Je ne connaissais pas l'éco-conception, d'ailleurs, c'est très intéressant. J'aimerais parler d'un problème qui m'est arrivé sur mon dernier portable, notamment. Je l'avais pendant 2 ans. Alors ça, le portable, c'est génial. Et en fait, je l'ai gardé 2 ans et mon but, c'est quand même de le faire tenir longtemps. Et à un moment, on m'a proposé une mise à jour constructeur. Donc je suis sur Android et tout. Alors, je ne la fais pas parce que je suis occupé. Je me suis dit, il faut que je sauvegarde des données, ça pourrait craquer, je ne sais pas. Et à un moment, bon, j'étais dans le rush, je fais la mise à jour, impossible de redémarrer mon portable. Impossible. Et là, bon, alors j'en avais vraiment besoin. C'est un outil de vie maintenant, aujourd'hui, un smartphone. On ne peut rien faire sans, on a les mails, on a tous les contacts et tout. Et bon, mon père est adorable, il me dit, vite, prends-toi un portable, je vais pouvoir te contacter. Bon, bah voilà, donc je l'ai fait. Mais je me suis dit, dis donc, je me suis fait avoir, quoi. C'est fou, c'est impossible, je suis obligé d'en racheter un, j'ai pas le choix, j'ai rien pu faire, j'ai plus accès à ce que j'avais, j'ai tout perdu. Et en fait, finalement, bah, je me suis intéressé à l'obsolescence programmée et je me suis dit, bah, effectivement, à l'histoire et tout, notamment avec les bas, l'origine et tout. Et finalement, c'est très séduisant pour une entreprise de jouer sur cette obsolescence programmée pour faire de la vente. Pour réussir à maintenir son activité, se dire pourquoi faire tenir un produit 10 ans si je peux le faire tenir 2 ans et faire racheter. Là, mon portable, il a 2 ans, je croise les doigts et pour qu'il tienne. Je me suis intéressé au Fairphone aussi. Le problème, c'est que les avis sont mitigés et je me dis, je veux bien mettre de l'argent pour quelque chose de plus respectueux de l'environnement, que je peux changer. Et finalement, je me dis, bah oui, mais d'un autre côté, j'ai besoin que ça marche. J'en ai besoin pour mon activité. Du coup, ma question, c'est, je me dis, bon, je suis libre de prendre un autre portable, de chercher autre chose, de voir s'il y a d'autres solutions sur le marché, peut-être développer une solution. Mais au-delà de la liberté des entreprises et la mienne, est-ce qu'il n'y a pas non plus une question de responsabilité des entreprises? On parlait qu'il y avait urgence aujourd'hui. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité? Et s'il y a responsabilité, est-ce qu'il y aurait moyen de légiférer efficacement sur l'obsolescence programmée?
Je crois qu'il y a une tentative en France, je la connais pas en détail, je crois qu'ils ont essayé de mettre en place une régulation contre l'obsolescence programmée, resterait quand même à définir ce qu'on appelle obsolescence programmée, parce qu'en fait, alors je crois que c'est une définition d'une méthode, je sais pas si, mais une méthode intentionnelle pour réduire la vie de type la puce dans les imprimantes qui limite les impressions à un certain nombre, etc., etc. Mais donc oui, je pense qu'il y a, des moyens de réguler, il y a différentes possibilités à ce niveau-là, mais il faudrait s'accorder sur ce qu'on entend par obsolescence programmée. Simplement un commentaire par rapport à ça. On ne peut pas s'attendre à ce que des entreprises investissent énormément d'argent sur la conception, dépensent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, produisent des produits de grande qualité avec des matériaux de grande qualité et ne fassent que les vendre. Et puis après, quoi? Donc c'est quand même cette logique d'accompagner la vente d'un produit avec des services, à tout le moins, si ce n'est de vendre des services complètement, qui fait qu'en fait le modèle d'affaires devient viable. Sinon simplement l'entreprise, effectivement, dans l'environnement économique actuel, elle ne survit pas. Je crois qu'on ne peut pas l'avoir dans les deux sens. On ne peut pas s'attendre à ce que... Ou alors, dans une économie planifiée où tout est régulé par des normes de... Enfin, je ne vois pas trop d'alternatives. Donc ces modèles d'affaires qui accompagnent les produits avec un certain nombre de services, si ce n'est qui vendent en service, c'est simplement, il faut pas non plus minimiser le changement pour l'entreprise que ça représente. Ça veut dire que son modèle de revenu change complètement, ça veut dire que c'est à beaucoup plus long terme. Enfin, c'est déjà un changement qui est considérable pour une entreprise. Hein. C'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts. Donc, bon, dans une perspective de transition et de progrès, je pense que ça en constitue un. C'est sans doute pas la panacée, mais voilà.
Moi, je m'amuse assez souvent à travailler sur la manière de calculer, parce que finalement, on fait ça dans le textile il y a de nombreuses années, il y a deux catalogues, et il y avait un produit à 5 francs, puis un produit à 15 francs, et puis je demandais aux gens quel est le produit le meilleur marché, et les gens disaient, c'est celui à 5 francs, je disais non, c'est celui à 15 francs. Non, mais c'est celui à 5 francs. Je dis non, c'est celui à 15 francs. Parce que finalement, je me suis toujours amusé à calculer la valeur d'un produit que je prends, la valeur d'achat divisée par son nombre d'utilisation. Et du coup, je calcule le coût d'utilisation. Et ça, chacun peut le faire. Et quand on achète quelque chose, on doit aussi réfléchir sur son cycle de vie. Et souvent, le bon marché est beaucoup trop cher. Donc, c'est aussi des choses que tout un chacun peut faire dans son quotidien et réfléchir dans sa consommation. Est-ce que vraiment, alors pour un Fairphone, moi j'ai un Fairphone depuis 3 ans et demi, ça m'amène à penser quels sont mes besoins. Et ça m'a amené à penser quels sont mes besoins. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 1000 pixels en plus chaque année sur mon appareil de photo pour prendre des photos qui vont finir sur Facebook? Pour moi, la réponse est non. Maintenant, ça appelle à sa propre conception. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le textile de montagne. Aujourd'hui, on vend des vestes pour skier qui ont des résistances à l'eau de 40 mm de colonne d'eau. 40 000 mm de colonne d'eau. Les gens prennent cette valeur de 40 000, ils disent ouh, c'est énorme, donc c'est très très bien. Et finalement, ces valeurs qui sont effectivement énormes, personne ne les comprend, mais c'est devenu marketing. Moi, j'achète 40 000 plus. Peut-être que l'année prochaine, il y aura une qui va sortir avec 50 000 mm de colonne d'eau. Et in fine, c'est des vestes qui résistent à la pluie. Et quand on me dit ça, je dis, mais combien de fois as-tu skié sous la pluie? Et la réponse est zéro. Donc, il y a aussi une question de se dire, quels sont nos besoins? À quel moment on doit s'arrêter? Effectivement, on parlait d'innovation, mais quelle est l'innovation? Dans les cours que je donne au niveau innovation, c'est redéfinir l'innovation en 2019 ou en 2020. Est-ce que l'innovation est uniquement rajouter des pixels ou c'est de faire quelque chose qui dure plus longtemps parce qu'il est modulable? Et ça, c'est toute une réflexion que j'essaie de mener à mon modeste niveau, mais qui sont des manières aussi d'inculquer des manières de penser différentes. Quels sont réellement nos besoins et comment est-ce qu'on calcule le prix d'un produit sur l'intégralité de son cycle de vie? C'est des pistes, quoi.
Oui, c'est une bonne question. Hein. Peut-être qu'il faut repenser nos valeurs ou penser à l'innovation en termes des valeurs. Est-ce que peut-être on peut se poser la question, c'est quoi qui vraiment a une valeur pour nous? Et est-ce qu'une innovation vaut la peine ou pas? Est-ce que ça nous amène quelque chose de la valeur ou pas? Oui, ça c'est une bonne question. C'est 7h35, on peut prendre peut-être juste vite, si vous faites vite. Et après on termine notre passionnant.
Merci. Ah, oui, voilà. Ouais, juste une petite aparté, comme vous dites, il y a une... On est vraiment dans une situation, je veux dire, critique. Et là, je vais peut-être paraître un peu drastique, mais moi, j'ai écouté un peu le discours d'un économiste français, Serge Latouche, et qui disait vraiment qu'il faudrait vraiment plutôt partir de la décroissance. Parce qu'avec la croissance qu'on a actuellement, en 2050, les énergies fossiles, il n'y en aura plus. Plus de pétrole, plus rien. Donc là, après, bien sûr, forcément, les monopoles, Shell, tout ça, ont déjà les brevets pour d'autres technologies qui vont vendre à des prix d'or. Enfin, voilà. C'est toujours les mêmes qui vont s'en mettre plein les poches, et puis de toute façon, ça va rester comme ça. Donc moi, je pense que la décroissance, même si ça paraît quelque chose de vraiment drastique, au final, quand on regarde, il l'a estimé, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais il avait estimé, si la France prenait ce modèle de décroissance, il y aurait en fait une décroissance environ de 50 ans. Mais qu'est-ce que c'est 50 ans? Je veux dire, qu'est-ce qu'on perd vraiment? On ne perd pas vraiment grand-chose, parce que toute la technologie qu'on a inventée, les nouveaux vaccins, les nouveaux les soins médicaux, on ne va pas les perdre. C'est juste, entre guillemets, un peu de confort, puis peut-être justement un peu de choses qu'on croit utiles ou même vitales, mais qui sont en fait complètement futiles. Et on pourrait vivre sans, parce que là, justement, on arrive à un moment où je pense que ce n'est plus trop le moment de parler « Ah ouais, réchauffement climatique, ouais, peut-être si... » Je veux dire, voilà quoi, je veux dire, on voit très bien la production de viande, par exemple, toutes ces vaches qui sont l'une à côté des autres et puis qui font un effet de serre massif, tout ça juste pour faire un bel effet vitrine à la Migros pour que le client se dise « Ah oui, j'ai le choix ». Puis pour finir, il y a en France, par exemple, ils mettent des produits de l'eau de Javel pour pas que ce soit, pas que les déchets soient, enfin, que les invendus soient repris. Il y a un moment où, je veux dire, là, on marche sur la tête. Quoi, là. Je veux dire, à un moment, il faut quand même, moi, je pense qu'on tape du poing et puis qu'on dise qu'il n'y a rien qui va et puis qu'il faut faire quelque chose. Quoi.
Merci beaucoup. Vous voulez rebondir sur la décroissance ou...
Je me réjouis de voir le programme politique et que ça donnera et qui votera pour lui, mais c'est intéressant. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, je dis pas ça pour me moquer. Hein. Je dis ça simplement sur penser les étapes du changement, mais...
Avec les gens en ligne en parallèle, parce que vous arrivez à tout suivre, c'est pas mal ça.
Bon, j'imagine que, en tout cas, tout ça va se passer par voilà, des choix politiques, des choix au niveau individuel, des choix au niveau des entreprises. Je pense qu'il faut trouver les bonnes incitations aussi hein, pour faire cette transition. Et il faut trouver aussi voilà, des avantages pour chaque côté. Mais ça va être un travail vraiment voilà, des collaborations, disons, entre tous les parties prenantes. Mais je pense que ça ne va aussi pas aller si vite. Voilà, on l'a compris. Bon, Igor, vous voulez terminer ou...
Alors juste, vous remercier déjà pour la discussion, pour votre participation, et puis vous donner rendez-vous pour le prochain Café Scientifique. Vous avez des petits flyers déjà ici.